Bamako et à Ouagadougou, 22h à N'Djamena, bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous, aujourd'hui au sommaire de Sahel Plus. Chute du prix du baril de pétrole brut, les pays producteurs souffrent particulièrement en Afrique. De Gao à Antsongo, les patrouilles mixtes de la MINUSMA, de Barkhane et de l'armée malienne tentent de ramener la sécurité.
Pour la sécurité de Gao, maintenant ça va très bien même. Si c'est pas la route de Gao là, maintenant quand même il y a calme ici, tout va bien.
Reportage de Kassim Traoré à suivre. Enfin, gros plan sur une application de téléphone portable pour lutter contre le paludisme. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Jean-Roger Billon à ce micro. Ici aux États-Unis, discours ce soir du président Obama sur l'état de l'Union. Le chef de l'exécutif américain en a présenté les grandes lignes à l'occasion d'une série d'allocutions ces derniers jours. Camille Gros-Didier.
Le chef de l'exécutif américain est parti à l'offensive la semaine dernière, évoquant notamment l'amélioration de la conjoncture économique.
En décembre, nos entreprises ont créé 240 000 emplois. Notre taux de chômage a chuté à 5,6%. Soit son taux le plus bas en 6 ans et demi, ce qui signifie que 2014 a été l'année qui a enregistré le taux de croissance de l'emploi le plus élevé depuis les années 1990.
Si des défis persistent en politique étrangère, notamment l'épidémie de virus à Ebola en Afrique de l'Ouest ou encore la rébellion de l'État islamique, M. Obama garde le cap et persiste à vouloir améliorer le sort de la classe moyenne. En même temps, ses options sont de plus en plus réduites suite à la victoire électorale des Républicains aux élections de mi-mandat de novembre 2014 qui leur a donné le contrôle des deux chambres du Congrès.
En République centrafricaine, l'employé des Nations Unies qui a été enlevé ce matin à Bangui a été libéré. L'employé de la MINUSCA avait été enlevé tôt dans la journée par des hommes armés, soupçonnés d'appartenir à la milice anti-Balaka. Une Française et un employé local travaillant pour une organisation médicale catholique avaient également été enlevés dans la capitale centrafricaine hier. Ces enlèvements surviennent quelques jours après l'arrestation par les casques bleus d'un haut responsable de la milice anti-Balaka, connu sous le nom de général Angelo. Les rebelles ont exigé, selon l'agence de presse Reuters, sa libération en échange de l'otage français. Manifestation de rue en République démocratique du Congo, les forces de l'ordre étaient aux prises pour la deuxième journée consécutive avec les manifestants opposés à la modification de la loi électorale. Les autorités congolaises ont coupé l'accès à Internet dans la capitale Kinshasa et dans la ville de Goma, dans l'est de la RDC, selon des sources concordantes. Les partis d'opposition ont appelé à des manifestations de masse aujourd'hui, alors que le Sénat avait commencé l'examen du projet de loi censé repousser la date des élections nationales et maintenir le président Kabila au pouvoir. La chambre basse du Parlement avait déjà adopté le projet samedi. Des milliers de personnes ont participé hier à des manifestations dans la capitale, violemment réprimées par la police à balles réelles et à coups de gaz lacrymogènes. Au moins 4 personnes ont été tuées. Les électeurs en Zambie se sont rendus aux urnes ce mardi pour élire un nouveau président en remplacement de Michael Sata, décédé en octobre dernier. Le vainqueur va achever le mandat de M. Sata, soit environ 18 mois avant la tenue d'un nouveau scrutin présidentiel l'année prochaine. 11 candidats sont en lice.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Yémen, la situation reste confuse après l'assaut du palais présidentiel par la milice chiite Ansarullah. Jusqu'à 17h GMT, on ignorait le sort du président Abed Rabo Mansour, à Dido, dont la résidence était encerclée par ses rebelles Houthis. Samedi, son principal assistant a été kidnappé alors que le gouvernement essayait d'élaborer une nouvelle constitution. La police française a arrêté 5 Tchétchènes à Montpellier et Béziers dans le sud du pays, les accusant de planifier une attaque terroriste. Selon le journal Midi Libre, des explosifs ont été aussi découverts près d'un stade à Béziers. Et le Fonds monétaire international a réduit de 3,7 à 3,5% sa prévision de la croissance économique mondiale en 2015. Malgré tout, fait remarquer l'économiste en chef du FMI Olivier Blanchard, ce taux reste supérieur à celui de 2014. Les pays émergents enregistreront un taux de croissance de 4,3% comparé à 2,4% dans les pays industrialisés. Et puis sport, CAN 2015, en Guinée-Bissau, série de matchs nuls dans le groupe D. Le Mali et le Cameroun ont partagé la poire en deux, un but partout, même score entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. VOA Afrique, Sahel Plus, la suite, Claire Morin-Gibou.
retour à la partie magazine de Sahel Plus sur VOA Afrique. Le prix du baril de pétrole brut est descendu début janvier sous la barre psychologique des 50 dollars, affectant négativement les ressources des pays producteurs, ceux d'Afrique en particulier. Face à cette situation, le Nigeria a durci le mois dernier le contrôle d'échange. L'Algérie entend contrôler plus strictement son commerce extérieur. Pour une analyse des répercussions de la baisse des cours de l'or noir en Afrique, Timothée Donangmaï, adjoint d'Emba Moussa Dambélé, économiste au Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, le CODESRIA de Dakar.
L'Algérie a également le gaz, donc ça contrebalance peut-être la chute du brut. Et ensuite, le matelas de l'Algérie, à savoir les réserves de change, étaient certainement beaucoup plus importantes que celles du Nigeria. Ce qui fait que, temporairement, l'Algérie peut s'en sortir, si vous voulez. Mais, évidemment, si ça continue, d'ici les 6 prochains mois, je pense que la situation risque d'être explosive sur le plan social, surtout. Mais pour le Nigeria, c'est encore plus grave. Parce que vous savez que le Nigeria pratiquement dépend du pétrole pour l'essentiel de son économie. Plus de 90% des recettes d'exportation dépendent du pétrole et plus de 80% des recettes fiscales sont tirées également des produits pétroliers. Alors c'est pour vous dire que s'il y a une baisse, ça a un effet extrêmement grave sur le plan économique et social. Mais c'est surtout la capacité de l'État à faire face à Boko Haram, ce qui veut dire que la capacité de l'armée nigériane à faire face risque d'être encore érodé si les prix du pétrole continuent à baisser.
Les pays pétroliers africains ont-ils les moyens de peser sur les cours actuels de l'or noir?
Malheureusement, non. Parce que vous savez, c'est les pays du Golfe qui détiennent la clé de cette situation-là. Et il semble qu'il y a aujourd'hui une sorte de lutte d'influence entre ces pays du Golfe et les Américains qui utilisent le gaz de schiste pour produire du pétrole. Tout ce que les pays africains peuvent faire, comme le Venezuela de l'autre côté, c'est de demander une réunion d'urgence de l'OPEP pour essayer de trouver une solution. Et l'Algérie l'a fait tout récemment. Mais seront-ils entendus? Je ne sais pas.
Certains pays pétroliers africains ont souvent dit qu'ils développent d'autres secteurs, des secteurs non pétrole. Quelles leçons doivent-ils tirer de la situation actuelle?
Le plus souvent, c'est la politique de la facilité. La manne pétrolière est là, les prix sont bons, donc on continue à engranger des recettes appréciables. Et puis le processus de diversification n'est pas aussi évident. Vous savez, ça prend du temps pour produire des unités industrielles, pour transformer notamment les produits pétroliers des industries sidérurgiques. C'est pas du jour au lendemain qu'on les développe. Et ensuite, il faut trouver des marchés de substitution parce qu'il y a des industries qui sont déjà assez développées dans les pays occidentaux ou dans les pays émergents. Et donc, c'est pas facile de concurrencer ces pays-là. Par conséquent, on parle beaucoup plus de diversification, c'est beaucoup plus sur le papier que dans la réalité.
Demba Moussa Dambélé, économiste au Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, le CODESRIA, il était joint à Dakar. Au Mali, de Gao à Ansongo, notre correspondant Kassim Traoré a pu suivre une patrouille mixte de soldats de la MINUSMA, de l'opération Barkhane et de soldats maliens. Ces patrouilles cherchent à assurer la sécurité des habitants dans la région de Gao. Notre équipe a pu se rendre au niveau du pont de Tassiga, dans le cercle d'Ansongo, dans les camps militaires, et a pu suivre une patrouille de nuit dans la ville de Gao avec les policiers sénégalais. Les populations restent préoccupées par la sécurité, mais aussi par le chômage et l'état de la route Gao-Bamako, qui est en mauvais état. Reportage de notre correspondant Kassim Traoré.
Cette patrouille est partie de l'entrée de la ville. Elle a fait 2 fois le tour de la ville avec des stationnements et des arrêts dans les endroits de regroupement.
Je m'appelle Yehia Alousseine Touré. Je fais la boucherie ici au 4e quartier. On est à l'esprit posé. Il y a la sécurité. On sait qu'il y a la sécurité et puis on n'a pas perdu rien. On a les clients maintenant, 100%. Nous, on est là de matin jusqu'au soir. Parfois, on quitte ici à 1h du matin, parfois à 2h.
Mon nom, c'est Boubacar Garipo. Ici, les réparateurs des motos. Mais vraiment, je suis content de depuis que le musulman est venu, nous on est à l'aise.
Au moment de notre premier passage, les rues de Gao étaient bien animées car c'est bientôt les vacances.
J'ai décidé de venir voir mes parents ici à Gao. Comme mon père est directeur régional d'artisanat de Gao, donc mes parents sont là. Pour la sécurité de Gao maintenant, ça va très bien même. Si ce n'est pas la route de Gao, là, maintenant, quand même, il y a calme ici. Tout va bien. Notre travail aussi, ça va un peu. Ça marche. C'est mollo. Mais ouais, les clients viennent, comme d'habitude même.
Tout le monde n'est pas satisfait du travail qu'accomplit les soldats de la paix.
Parce qu'on a compris une chose, que dans les périphéries, il n'y a pas de sécurité. Regarde, quand tu vas à 45 km de Gao, tu ne peux pas circuler librement. Il faut aller en Songo, il faut aller à Kidal, il faut aller à Djobok, il faut aller à Burem, il faut aller à Menaka. Parce que Gao, là, c'est un centre. Mais ce qui nous intéresse beaucoup, c'est dans les zones périphériques. Parce que si tu vois aujourd'hui qu'il y a trop de trucs qui se passent à l'extérieur de la ville, là, c'est parce que l'intérêt, tout est centré au niveau de Gao. Mais il faut vraiment élargir, quoi.
Après deux tours de la ville, aux environs de 2h du matin, il fallait une pause pour permettre aux militaires de faire le bilan.
Souvent, nous engageons 2 à 3 patrouilles et nous leur laissons les consignes. Il y a un briefing de départ, puis à l'arrivée, nous débriefons pour pouvoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour pouvoir améliorer les autres jours.
On leur avait dit que c'est comme ça que nous travaillons ici, qu'ils verront en tout cas le meilleur de vous. En tout cas, moi, je suis très heureux de la manière dont on a tous travaillé ce soir. C'est grâce à vous que si ça a été bon, c'est grâce à vous. En tout cas, c'est grâce à nous tous. Merci à vous d'être venus encore. Bonne nuit à vous et puis à demain.
Dans le cercle d'Ansongo, les jackpoints sont assurés par les FAMA. Les barkans patrouillent à pied et les soldats de l'aménagement gèrent les positions avancées, comme c'est le cas au niveau du pont de Tasiga.
Je suis le sous-lieutenant Adam Taher. Bon, nous sommes là sur une position pour défendre au moins le pont là. Nous avons 5 positions. Les 4 au moins c'est pour la sécurisation et pour sécuriser notre position même, c'est-à-dire notre emplacement. Maintenant, l'autre, c'est pour le pont. Donc, les éléments sont là-bas. Nous sommes là depuis le 2 du mois passé. Et entre Ansango et ici, notre position, rien qu'hier, il y a eu un enlèvement de moto. Et vers Tinhama, il y a eu même un mort de l'autre côté. Parce qu'ils ont enlevé 2 motos, ils ont tué un gars.
Non loin de ce pont se trouve le CESCOM du village. Autrefois, les agents y travaillaient la peur au ventre.
Là, c'est Marzouk Ibrahim Maïga, le DTC du CESCOM de Tasiga. Tous les jours, on consulte du matin au soir. Travailler et puis nous sommes remis à Dieu. Hein. Nous sommes quand même contents parce qu'il y a l'aménagement qui est à côté de nous. Donc, ça nous donne une certaine assurance. Mais il faut reconnaître qu'avant, il faut voir, nous, on consulte, mais en même temps, on sort pour regarder du côté de la brousse s'il n'y a personne. Ça, il faut reconnaître que c'est comme ça que ça se faisait pendant toute la crise. Mais présentement, Dieu merci, on a des agents qui passent régulièrement, donc on est content. Là.
Dans le CESCOM de Tasiga, l'affluence est féminine. Cela se comprend car la plupart des femmes viennent pour les questions d'accouchement. La matrone est plus qu'épuisée par le travail.
Je m'appelle Aïssa Houdou. Moi, je travaille du côté de la maternité. Je fais la CPN, je fais des accouchements. Pendant l'accouchement, c'est le chef de poste qui m'aide à faire des accouchements. Nous sommes les deux, moi et le chef de poste. Je n'ai pas d'obstétricien, je n'ai pas de stagiaire qui m'aide. Je sais que, quels que soient les problèmes, je n'ai pas peur parce que je travaille pour mon village.
Certains cas graves sont prises en charge très souvent par les soldats de l'aménagement qui, lors des patrouilles, font des traitements à travers une ambulance.
Et je suis le lieutenant Badajiba Omoro. Je suis à la cellule des opérations au niveau du 2e bataillon Nijbat aménagement. Aussi, nous faisons des activités civilo-militaires pendant nos patrouilles, tout comme étant à la base. Les civils viennent vers nous. Nous leur prêtons commande des soins. Ils consultent plutôt au niveau du médecin gratuitement dans les médicaments. Et quand nous faisons nos patrouilles, nous essayons de faire des consultations médicales dans la mesure du possible.
La Bezanga, la dernière position des soldats de la paix à la frontière nigérienne, était la dernière étape de cette patrouille qui a mobilisé une 20aine d'hommes pour 4 pick-up, le tout sous le contrôle du lieutenant Oumarou de Nijbat D. Gao Kassim Traoré, VOA Afrique.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur VOA Afrique, 102 FM à Bamako.
Mbafo, une émission interactive en Bambara, tous les samedis de 20h à 21h, temps universel. Des discussions sur des thèmes variés comme la sécurité au Mali, le rôle des femmes, la jeunesse, le chômage, entre autres. Pour y participer, envoie un nouveau numéro de téléphone sur notre page Facebook VOA Service Bambara ou un email à voabambara@gmail.com.
Nous terminons l'émission par un peu de technologie. Un gadget qui s'attache au cellulaire, au téléphone portable, pourrait permettre de détecter rapidement le paludisme et ainsi de sauver des milliers de vies humaines. Le point avec Bagassikoura.
L'Organisation mondiale de la santé chiffre à environ 600 000 le nombre de décès attribuables au paludisme en 2013, ce qui en fait l'une des maladies les plus mortelles au monde, notamment pour la petite enfance en Afrique subsaharienne. Parmi les stratégies les plus efficaces contre le paludisme, la détection précoce et une intervention rapide. Mais les premiers symptômes ressemblent à ceux de la grippe. Ce n'est qu'après une analyse de sang que le médecin peut évoquer la malaria, ce qui prend du temps, de l'argent et coûte des vies par milliers. D'où l'idée conçue par des scientifiques britanniques de développer un gadget qui s'attache à un cellulaire, le transformant en un puissant microscope. Une application chargée sur le cellulaire analyse des données recueillies sur le visage d'un malade et permet de détecter en un temps record le parasite du paludisme. Le procédé ne coûte pas cher et ça marche, s'exclame Jean-Viry Babel, le patron de Janssen, la société à l'origine de l'application.
So we take a high definition picture.
Nous prenons une image à haute définition d'un échantillon de sang. Nous séparons le globule rouge du reste, le globule blanc, les plaquettes et nous examinons chacun des globules rouges individuellement. L'application est facile à utiliser et fiable à 98%. Il suffit de se doter d'une plaque de verre de laboratoire. Il n'y a qu'un seul bouton qui est appelé diagnostic. Donc, placez le gadget sur la plaque de verre et vous le collez contre le sang séché et vous appuyez sur le bouton et cela dit oui ou non, explique Jean-Viry Babel. L'appareil sera mis à l'essai en janvier et février prochain en Tanzanie, au Bénin et en Indonésie. Si les tests sont concluants, la vente pourrait commencer d'ici la fin du mois de mars. À terme, les chercheurs espèrent pouvoir utiliser cette technologie pour détecter d'autres maladies telles que la tuberculose ou la maladie de Lyme.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation Issia Kaba, à la technique Nicolas Ivanov, au micro Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec le single Shadows de l'artiste et producteur sud-africain Petite Noire. Shadows figure sur le dernier album de l'artiste, The King of Anxiety, qui est sorti hier, lundi 19 janvier. Et voilà, c'était le dernier numéro de Sahel Plus en tant qu'émission quotidienne. Dès demain, Sahel Plus se transforme en émission hebdomadaire que vous pourrez retrouver sur VOA Afrique à 18h temps universel, le mercredi et le vendredi. Rendez-vous donc demain, 18h temps universel sur VOA Afrique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Très bonne soirée. Et très très bonne nuit à tous.